Alors voilà déjà la lecture biblique. Elle est dans 2 Samuel 9, les versets 1 à 13. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, et à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth !» Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce que appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à mon serviteur. » Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mica, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était expropié des deux pieds. Voilà, j'invite Didier à venir et je vais prier pour toi. Oui, merci Seigneur, parce que ta parole est vivante, parce qu'elle est inspirée de toi, et chaque fois qu'on la lit, chaque fois qu'on la reçoit, eh bien ça parle à nos cœurs. Merci parce que c'est ton Esprit Saint qui a inspiré Didier, qui a encore une fois eh bien, comblé son désir de parler en ton nom pour que l'on puisse, que tu parles à nos cœurs. Alors oui, Seigneur, prends mon cœur encore ce matin pour que vraiment nous soyons prêts chacun à recevoir ce que tu as sur le cœur pour chacun. Merci. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Voilà. J'ai amené quelque chose, une couronne. Et c'est quelque chose que j'ai acheté pendant tout ce temps difficile où on était avec Isabella, parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris. On est souvent tributaire des événements. On subit les événements autour de nous, que ce soit le Covid récemment et aujourd'hui, ce monde en guerre. Et on a parfois l'impression qu'on subit plutôt que d'aller au devant des événements. Or, la Bible nous appelle à régner dans la vie. J'ai reçu ce verset qu'on lira tout à l'heure de Romains 5, 17. Régner dans la vie par Jésus-Christ. Pas juste subir, mais régner dans la vie par Jésus-Christ. Régner sur les circonstances, sur les événements. Et cette couronne, je l'ai toujours dans mon bureau, sur une étagère. Et quand parfois il y a des moments difficiles et que j'ai l'impression que je subis plutôt que de faire face aux situations, eh bien je me rappelle qu'on est appelé dans la parole de Dieu à régner dans notre vie par Jésus-Christ. Alors lorsqu'on entend le mot régner avec Christ, nous pensons automatiquement au ciel, à la vie après la mort. Beaucoup de chrétiens ont cette vérité, ils savent qu'on va régner avec Christ là-haut dans le ciel. Et à ce sujet-là, il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui est une histoire vraie, qui s'est passée à Paris. Un jour, il y avait un salutiste qui venait au culte et il prenait un bus à Paris et il s'est assis dans le bus. Et un SDF, un sans domicile fixe, un homme de la rue, est venu s'asseoir près de lui. Il avait bu beaucoup de vin et puis il regarde le salutiste comme ça. Et il lui dit, « T'es de quelle armée, toi ?» Et alors, le salutiste, plein de feu, dit, « Je suis de l'armée du salut, de l'armée de Jésus. » Ouais. Et le sans domicile fixe le regarde et lui dit, « Mais où que c'est qu'elle est, ta caserne ?» Et le salutiste lui répond, « Là-haut, dans le ciel. » Le sans domicile fixe le regarde dépité et lui dit, « Ben, mon vieux, t'es pas encore arrivé, hein ?» Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont appris, assimilé, qui vont régner avec Christ dans le ciel. Mais lorsque nous serons au ciel, nous les élus, nous régnerons avec lui. Mais la parole de Dieu est très claire. On n'est pas ici dans la salle d'attente pour aller au ciel. On n'est pas ici juste pour attendre d'aller au ciel et d'avoir toutes les promesses de Dieu au ciel. On n'est pas dans une salle d'attente, comme beaucoup de chrétiens le font, dans la salle d'attente de l'église à attendre leur tour pour aller au ciel. Là où il y a toutes les promesses de Dieu. On est appelé à être dans le monde, à régner dans la vie par Christ. Et peu de chrétiens ont assimilé cette promesse. Et surtout dans ces moments difficiles que nous vivons, où on a plus l'impression d'avoir subi le Covid que d'avoir affronté cette maladie. À quoi servirait-il de n'être qu'un spectateur de sa vie sur cette terre dans l'attente de la vie éternelle ? Il y a trop de chrétiens qui vivent en spectateurs de leur propre vie ou de la vie des autres. Mais la promesse de Dieu est pour nous, elle s'accomplit déjà sur la terre. Est-ce que vous y croyez ? Amen. Là, elle a montré tout à l'heure, Isabella, tout le carton de promesses. On a appris à proclamer ces promesses, parce que ces promesses, elles ne sont pas juste pour demain ou dans le ciel. Les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, elles sont pour aujourd'hui. Elles sont pour cette vie. Et je ne sais pas s'il était plus facile pour mon grand-père d'être officier de l'armée du salut pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il était plus facile pour les protestants huguenots de se réunir dans les forêts des Cévennes parce qu'ils étaient massacrés. On dit qu'on vit dans un monde difficile, certes, le monde n'ira pas de mieux en mieux, mais les chrétiens, ces huguenots des Cévennes, des gens comme mon grand-père, ont appris à régner dans la vie par Christ et à ne pas subir. Et je voudrais vous lire ces paroles de Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ ? Vous entendez cela ? Ceux qui ont reçu la grâce et la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Au lieu d'être dominés par Satan, nous régnons aujourd'hui par notre vie, dans notre vie par Jésus-Christ. Nous prenons position. Au lieu d'être dominés par la mort, les postes qui meurent, l'église qui meurt, nos rêves qui meurent, nous régnons aujourd'hui dans la vie par Jésus-Christ et on doit le proclamer. Je règne. Au lieu d'être dominé par les circonstances, et elles sont parfois douloureuses, et je sais qu'ici, il y a des circonstances douloureuses, mais nous régnons aujourd'hui dans la vie par Jésus-Christ. Et nous apprenons, en prenant possession des promesses de Dieu, à prendre position, à dominer les circonstances. Au lieu d'être dominés par l'actualité de ce monde en mouvement, nous régnons dans notre vie aujourd'hui par Christ. Dieu veut que nous régnions par Christ, sur nos cœurs, sur nos actions, sur nos blessures, sur tout ce qui peut nous faire du mal. Au lieu de les subir, nous régnerons. Vous savez, les blessures du cœur, je suis enfant d'officier et j'ai été touché des fois par des sergents âgés qui venaient me voir, qui s'avançaient au banc de la grâce et je devais aller prier avec eux. De voir parfois des hommes et des femmes qui souffraient d'une blessure qu'ils gardaient pendant des années. Et il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui que le temps efface les choses. Non, c'est le sang de Jésus qui efface. C'est le Saint-Esprit qui efface. Et parfois, alors, on garde ces blessures au fond de soi et au lieu de régner sur ces blessures, on les étouffe. Et au pire moment de votre vie, elles réapparaissent. Elles font encore plus de mal. Dieu veut que nous perdions notre mentalité d'esclave, notre mentalité d'esclave du passé, de la nuit, de l'échec, du rejet, des blessures. En relisant ce verset de Romains 5, 17, j'étais la première fois qu'il s'est révélé à moi dans ces 2 ans que nous avons vécu avec Isabella. J'ai fait cette prière que j'ai écrite dans ma Bible. Seigneur, je veux régner dans la vie par toi et par toi seul. Ce n'est pas avec mes propres forces, mais c'est par toi. Et je veux vivre chacune de mes journées comme un héritier du roi, un enfant du roi et non un esclave. Pardonne-moi chaque fois que je ne le fais pas. Ouais, tellement de versets dans la Bible qui disent que nous sommes les héritiers, co-héritiers de Christ. Est-ce que on a tellement l'habitude de lire sa Bible depuis des années, mais est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur de ces paroles? Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, de toute cette bénédiction que Dieu a donnée en Christ. Nous sommes co-héritiers. Alors nous devons apprendre à relever la tête, non pas en comptant sur nos propres forces, parce que si je compte sur mes propres forces, j'ai plutôt envie de m'enterrer le plus bas possible, mais par la puissance de Dieu qui agit en moi. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je deviens fort. » Parce que dans ma faiblesse, la puissance de Dieu peut se révéler. Régner. Régneront, nous dit Paul, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Pour régner, Romains 5, 17, on l'a lu, nous devons recevoir la grâce. Pour pouvoir régner, on doit recevoir toutes les promesses de Dieu. Ma maman, qui nous a quittés cet été, était une fan du catalogue de la Redoute en France. Et c'était avant Internet, de toute façon, elle ne s'est jamais mis Internet, donc catalogue de la Redoute. Et elle commandait quelque chose sur le catalogue, elle avait cette certitude que 48 heures après, c'était dans sa boîte aux lettres. Si ce n'était pas au bout de 48 heures, vous auriez dû entendre ce qu'elle disait au téléphone à la pauvre dame de la Redoute, parce que c'était une promesse. Ici, tu as un catalogue de pour toi. Pas des promesses dans le ciel plus tard, des promesses pour toi aujourd'hui, pour régner dans la vie. Il te faut recevoir ces promesses. On a dû apprendre ça avec Isabella dans ce temps de désert, parce que c'était un temps de désert, ces 2 ans quand même, où on avait quitté une certaine zone de confort. Et c'était bien, parce que dans l'armée du salut, il y a vraiment un confort. Et là, on a dû réapprendre à vivre des choses différentes, à être salarié par exemple. À comprendre que quand les gens viennent le dimanche matin au culte, ils ont eu toute leur semaine derrière et que le lundi, si le pasteur ou l'officier est en vacances, eux, ils recommencent le travail. Et j'ai vécu ça dans une église où on ne pouvait pas payer son pasteur. J'étais pasteur de cette église de réveil avec 2 ou 3 autres, mais nous avions tous un travail à l'extérieur. On a dû réapprendre toutes ces choses-là. Et j'ai dû réapprendre à compter sur la grâce de Dieu. Si on veut changer un radiateur dans l'église, il n'y a pas le quartier général pour te donner l'argent pour le radiateur. On doit trouver l'argent, on doit se cotiser, on doit prier pour changer un radiateur. Et j'ai dû réapprendre toutes ces choses, compter à être faible, apprendre à être faible pour compter sur la puissance de Dieu. Je n'ai jamais reçu autant de choses dans ma vie que depuis le temps où je n'avais rien. Le Seigneur a toujours comblé. Donc, pour régner, il te faut recevoir. Et pour recevoir, il te faut la foi. J'aime bien dans Josué, quand on raconte cette histoire, quand il devait traverser le Jourdain, vous la connaissez sans doute, vous l'avez déjà lu cette histoire, le peuple est là, Et il fallait que les prêtres mettent le pied dans l'eau. C'est pas comme avec Moïse où la mer s'est séparée en deux et le peuple a traversé. Ils ont vu la mer se séparer. Là, le peuple devait avancer en mettant le pied dans l'eau. Il devait faire ce pas de foi. Et c'est quand les prêtres ont mis la plante des pieds dans l'eau que l'eau est partie. Mais le miracle ne s'est pas passé devant eux, comme pour la traversée de la mer avec le peuple, quand les Égyptiens les suivaient. Le miracle s'est passé à plusieurs kilomètres de là, à Adam. Ils n'ont pas vu le miracle devant eux. Ils n'ont pas vu l'eau se séparer. Ils ont dû marcher. La plante des pieds. Ils ont cru en la promesse de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, apprends-moi à mettre la plante des pieds juste dans tes promesses. Et le miracle avec Moïse quand il a traversé la mer, est-ce que le miracle c'est la mer qui se sépare? Mais Dieu est tout puissant, il peut faire ça, c'est pas ça le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est qu'il y a un homme Moïse qui a eu la foi et quand Dieu lui a dit « tends ton bâton vers la mer », il l'a fait. Et la foi de cet homme a sauvé son peuple. Et la mer s'est séparée. Avec Isabella, dans ce moment-là, on a été étonnés un jour dans notre culte personnel, on a souligné ces paroles qui reviennent souvent dans l'Évangile. Celui qui croit. Celui qui croit ne sera pas jugé. Celui qui croit à la vie éternelle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Celui qui croit en moi ne vivra pas même s'il meurt. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif, etc., etc. Celui qui croit. Et pour régner dans la vie, il faut être un homme et une femme de foi. Même quand les circonstances me montrent que ce n'est pas possible. Régner, c'est recevoir. Tout est possible à celui qui croit. Et Isabella, le verset qu'on a aussi dans notre cuisine, rien n'est impossible à Dieu. Et j'ai beaucoup aimé, on a ça dans la cuisine et quand on devait déménager, on a fait venir des déménageurs pour un devis et Isabella était dans la cuisine avec ce déménageur, et il était assis là, juste en face du verset, « Rien n'est impossible à Dieu. » Et il a dit à Isabella, « C'est beau pour ceux qui y croient. » Tu y crois? Tu y crois? Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin dans ton cœur, comment tu es venu, avec tes joies, peut-être des peines et des douleurs. Et tu viens au culte, culte après culte, peut-être depuis des mois, des années, tu as cela. La bonne nouvelle que j'aimerais t'apprendre aujourd'hui, c'est que tu peux régner sur ça. Et car rien n'est impossible à Dieu. Et il peut agir avec puissance. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Si on regarde dans le grec, c'est surabondance de grâce. Il ne dit pas, parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui compte la grâce. Tiens, toi, je te donne un peu, 30 grammes de grâce, toi, ouais. Quand il donne la grâce, il la donne avec surabondance. Et ceux qui reçoivent avec surabondance la grâce, et c'est intéressant parce que jamais dans l'Évangile, tu ne trouveras qu'il est dit, comme disent certaines églises, que si tu crois en Jésus, tout va être parfait. Tu trouveras un boulot, tu seras plus malade, tu seras plus au chômage, etc. Montre-moi où on trouve ça dans l'Évangile. L'Évangile nous dit, vous passerez par des tribulations dans le monde. Mais j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Et c'est de recevoir la grâce qui me fera traverser ces épreuves. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elle l'ait comme en chichement, non, qu'elle l'ait en abondance. Wow. Je n'ai pas encore réalisé toute la richesse de l'abondance de la grâce que Dieu a pour moi. Mais si on le réalisait, mes amis, quelle révolution pour la Suisse, pour l'armée du salut. Pour les églises en général, qui, avec le Covid, ont l'impression d'être bien courbées. Dieu ne nous doit rien. Tu entends ça? Dieu ne nous doit rien, mais il nous donne tout. C'est incroyable. C'est ça la grâce. Il ne nous doit rien, mais il nous donne tout. L'abondance de la grâce est là parce qu'il y a l'abondance de l'amour. Il y a un verset que j'aime particulièrement, qui est un de mes versets préférés, Romains 5, 7. « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Écoute bien ce verset. « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu que tu sois d'abord venu à l'église, que tu sois le chrétien parfait. Ça existe, hein ? Je ne sais pas. Pour mourir pour toi sur la croix. Il est mort pour toi tel que tu étais. Lorsque tu étais encore pécheur. Il ne te doit rien, mais il a tout donné. Et un jour, j'ai réalisé, moi, en tant qu'enfant d'officier, on me parlait de tas de choses dans le groupe de jeunes, la sexualité, gérer ton argent, la musique, etc. Et on pensait que parce que j'étais au groupe de jeunes et que j'étais le petit-fils du colonel Chastagnier, tout était bon, je pense, on était un certain nombre d'enfants d'officiers là. Et puis un jour, il y a un intervenant qui est venu et il nous a apporté le message du salut. Au début, j'ai dit, mais pour qui ? Il ne sait pas à qui il s'adresse là, tous dans l'église, quoi. Et ce message m'a touché. J'ai réalisé que Christ était mort pour moi aussi, que j'étais pécheur. Et j'ai réalisé que dans ma vie, Christ n'attend pas que je sois parfait pour me donner sa grâce. Il y a abondance de grâce. Alors, dans les moments difficiles qu'on a traversés, on a appris avec Isabella à prendre ces versets qu'on a mis sur un tableau, comme elle vous le disait, chaque jour un verset. Et ce verset, on l'a proclamé. On l'a crié. On l'a proclamé dans les larmes parfois, dans la douleur. Et on a proclamé, Seigneur, tu m'as donné ce verset aujourd'hui. Et je veux croire que cela se réalisera pour moi. Alors, on a lu tout à l'heure un passage de Méphibosheth, l'histoire de Méphibosheth. Je voudrais juste dire deux ou trois mots sur cet homme qui était perclus des pieds, donc rejeté par les hommes, rejeté par la religion, rejeté par la politique, puisqu'il était un des petits-fils de Saül. Et j'aime bien raconter cette histoire aux enfants dans la rue, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de Méphibosheth là. Et un jour, David va faire preuve de grâce. En se souvenant de son amitié pour Jonathan, il va demander si Jonathan a encore un fils, s'il y a encore un fils de Saül. Malgré tout le mal que Saül a pu lui faire, il veut faire grâce. Et ça me rappelle ce que Dieu veut faire pour nous en Jésus-Christ. Et on lui a dit, ben, il y a bien ce Méphibosheth. Je dis Méphie aux enfants parce que Méphibosheth, c'est un peu dur à dire. Donc il y avait ce Méphibosheth. Et les enfants aiment bien quand je mime qu'il boite, qu'il vient, qu'il... Il est tremblant de peur, il pense que David va le fouetter, le mettre en prison, etc. Parce qu'il dit, moi je suis un chien mort. Et David l'invite à venir à la table du roi. C'est ça la grâce. Peu importe qu'il soit boiteux, qu'il soit le fils de, la grâce entre en action. Et Méphibosheth va régner sur son handicap, régner sur sa situation, parce qu'il est à la table du roi. Et c'est intéressant, vous l'avez lu avec moi, David a été le faire chercher à Lodebar. Et Lodebar, ça veut dire sans pâturage, désert. Les noms dans la Bible sont importants. Méphibosheth habitait là, à Lodebar, l'endroit sans herbe, sans rien, dans le désert. Et David a été le faire chercher là-bas pour l'amener à la table du roi, comme Dieu nous cherche aussi dans nos déserts. C'est ce qu'on a vécu. Dans le désert, Dieu se révèle à nous. Moi, j'ai réalisé une chose dans ces 2 ans de désert. Le Seigneur était là. Je n'ai jamais douté qu'il était là. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai souffert, mais je n'ai jamais douté qu'il était là. Et j'ai réalisé à un moment donné, au travers de lectures de la Bible, de prières, de gens qui m'ont conseillé, que dans le désert, Dieu m'avait envoyé parce qu'il m'estimait digne de passer dans ce désert. Et que là, dans le désert, il venait non pas pour chercher le major Chastagnier, ni le pasteur Chastagnier, ni le fils du colonel Chastagnier. Il venait chercher Didier, ce jeune qui, à 14 ans, lui a donné sa vie. Dépouillé de tout, il est venu me chercher dans mon désert. Et j'aime bien ce verset du psaume 23, tu dresses une table face à mes ennemis. Quand j'étais petit, parce que je regardais beaucoup de films un peu comme ça, je pensais dresser la table, c'était mettre la table pour que les flèches ne touchent pas. Tu vois, t'étais... Quand je disais le psaume 23, j'avais cette image, il dresse la table comme un bouclier pour me protéger. En fait, non, il dresse une table. Il y a les gens qui sont là avec leurs flèches, leurs javelots, il y a le diable qui est là aux aguets. Viens manger, Didier. Viens à la table du roi. Et c'est ça la grâce. Juste de prendre ce temps de repos, d'être comme Méphibosheth, peut-être boiteux. On a écrit un chant avec les enfants du boss qui s'appelle Cabossé Chiffonné, parce qu'un jour, un enfant de 12 ans est venu me voir en me disant, tu sais Didier, ma vie est cabossée, chiffonnée. 12 ans. On a parfois des cœurs cabossés, chiffonnés, des rêves cabossés, chiffonnés. Et Dieu nous invite à sa table. La grâce est la réponse de Dieu à ta foi. Et il y a une vérité qui m'est venue, que je dis souvent, j'en ai parlé à des rassemblements de jeunesse sur ce thème-là aussi. J'ai appris une chose. Au lieu de me regarder dans la glace, je me regarde dans la grâce. Dans la glace, je vois les années qui passent, encore une ride, mes faiblesses, mes défauts, mes handicaps peut-être. Mais dans la grâce, si je me regarde dans la grâce, je vois ce que Christ peut faire à travers de moi et à travers de ma faiblesse. Et c'est peut-être la phrase qui résume mes 2 ans avec Isabella. Ne plus se regarder dans la glace, mais se regarder dans la grâce. Et la grâce, c'est de pouvoir venir à la table du roi. Et la grâce, c'est la croix. Le don de la justice, on doit l'accepter. Paul parle d'un don de la justice. Ce n'est pas quelque chose de normal. Dieu ne te doit rien, mais il te donne tout. Et comme la grâce, la justice est une grâce. Et Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli, Didier, tu n'as plus rien à rajouter, sauf de me ressembler de jour en jour, de me glorifier dans ta vie, d'aller là où je t'envoie, parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. C'est comme le sang de Jésus, c'est comme une protection entre le diable, le mal. Je suis couvert par le sang de Jésus. Et c'est ce qui fait que je peux venir à la table de Dieu. Parce que je suis couvert par son sang. C'est pas à cause de ce que j'ai fait. Moi, je suis un homme imparfait. Je suis rien, moi. Qu'est-ce qu'il disait, Méphibosheth ? Je suis un chien mort. Mais couvert par le sang, je peux recevoir l'abondance de la grâce. Avec les enfants du boss, on avait écrit ce petit chant qu'on chantait et qui est devenu un chant chanté dans les églises, alors qu'il s'adressait pour les enfants. Et en France, aujourd'hui, on le chante dans les temps de louange. Ça s'appelle « Mystère ». C'est un chant qu'on chantait pour parler de la croix. Et dans la strophe, à un moment donné, on a écrit « Au moment de mourir, Jésus s'est livré. Et c'était à toi et moi qu'il pensait sur la croix. » Et là, sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. On est racheté, adopté par le don de la croix. Alors, régner par mes propres forces ? Non, régner par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, parce qu'il est vainqueur déjà, et qu'il règne. Satan est vaincu. Dans l'église de réveil, j'aurais eu 4 alléluia. Pardon. Satan est vaincu. On a peut-être du mal à y croire, parce que le Covid nous a mis une sacrée baffe, comme on dit. Quand on voit les gens qui désertent l'église après ce Covid, ceux qui s'installent en pantoufles pour regarder la télé, le culte du dimanche matin, ceux qui estiment qu'ils n'ont plus besoin de venir à l'église, ceux qui estiment qu'ils attendent d'avoir l'église idéale. J'ai un scoop pour toi, l'église idéale n'existe pas. Mais Dieu t'a appelé à servir dans l'église où il t'a placé. Mon poste de Rouen, où je suis parti comme cadet à l'école, la moyenne d'âge, 87 ans. Eh bien, dans ce poste-là, j'ai été béni et conduit jusqu'à ma vocation d'officier. Alors, quand j'avais besoin d'aller dans des rassemblements de jeunesse, j'allais dans des rassemblements de jeunesse, mais mon poste était Rouen. Et au lieu de dire « Waouh, j'attends que l'officier fasse un truc pour que ce soit bien fun mon poste », je me suis dit « Mais Didier, qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit fun ton poste ? Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il y ait la vie dans ton poste ?» Et j'ai commencé à m'impliquer dans le culte, j'ai commencé à réunir 2 ou 3 jeunes. Je me souviens, quand on était à Lyon, on a commencé à 3 jeunes, on a fini à 40 avec un groupe rock. Bon, ça, c'était moins bien pour certains, mais... On a grandi, j'ai dit « Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon poste ?» Nous régnons parce que Christ est vainqueur et qu'il règne. Amen. Ne te laisse pas avoir par les circonstances. Règne sur les circonstances. Prends ça. Il règne. Il a tout entre ses mains. Quand j'entends ce qui se passe en Ukraine, on finit aujourd'hui le Covid, on rentre dans la guerre en Ukraine, et avec la France, on est bien concernés parce qu'on est dans l'OTAN, et je peux vous dire que ça tremble dans les pays concernés par l'OTAN. Est-ce que nous aussi, nous rentrerons en guerre ? Mais je ne veux pas écouter BFM en France à longueur de journée qui me dit que je veux prendre la parole de Dieu et de dire « Christ règne ». Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour les chrétiens qui vont se réunir le premier dimanche de guerre en Ukraine, et je sais qu'ils vont se réunir. Et ils diront « Christ règne ». Et dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu dois déposer au Seigneur, garde cette vérité « Christ règne ». Ne laisse pas enfuir au fond de toi des choses que tu penses. Le Seigneur ne pourra rien faire pour cela. Christ règne. Et nous régnerons avec lui lorsque nous proclamerons sa victoire. Il y a des choses que j'ai apprises quand Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il y a des bons combats à mener et il y a des combats qui ne m'appartiennent pas, qui sont ceux de l'Éternel. Et je dois, moi, juste apprendre à venir devant lui, venir à sa table pour régner avec lui. Et lui combattra les combats que je ne peux pas mener. Au lieu d'être dominé par Satan, nous régnerons avec lui. Au lieu d'être dominé par les circonstances, par Jésus et lui seul, nous régnerons sur les circonstances. Et je voudrais terminer cette pensée en vous parlant d'Angélique. Lorsque j'étais éducateur, c'est de nombreuses années, à Rouen, un de mes collègues avait une fille de 14 ans qui un jour a une petite grosseur à la jambe. Et cette grosseur s'est avérée être un cancer. 14 ans, on lui a coupé la jambe jusque-là. Et puis jusque-là. Et puis la deuxième jambe. Et un jour, on lui a appris que le cancer était généralisé. Et Angélique était dans le service de l'hôpital. Et vous savez ce qu'elle a fait, ce qu'elle faisait. Quand elle entendait dans le service où elle était à l'hôpital un enfant qui pleurait, elle prenait, quand elle le pouvait la première fois, sa chaise. Elle allait près de l'enfant, elle lui prenait la main. Elle priait avec lui, alors qu'elle-même était malade. Et elle disait, sois fort. Ton Dieu règne près de toi. Sois fort. Et un jour, elle ne pouvait plus même aller sur le fauteuil roulant. Elle était allongée sur le lit. C'était la veille de sa mort. Elle a entendu un enfant qui pleurait au fond du couloir. Elle a fait tout pour que les infirmières amènent son lit médicalisé juste à côté de l'enfant qui pleurait. Elle a pris sa main. Elle lui a dit, sois fort. Ton Dieu règne près de toi. Sois fort. Elle s'est éteinte quelques heures après. Elle régnait dans la vie. Tu vois ce que c'est régner dans la vie ? Malgré les circonstances, elle régnait dans la vie. J'aime beaucoup ce verset de 1 Jean 3:20 et j'aimerais te le laisser ce matin. S'il y a quelque chose sur laquelle tu ne règnes pas dans la vie, s'il y a quelque chose que ton cœur condamne en toi, 1 Jean 3:20 nous dit, si notre cœur nous condamne, et j'aime ce verset, Dieu est plus grand que notre cœur. Et régner, c'est accepter la grâce de Dieu. Régner, c'est accepter qu'il vienne faire son œuvre en toi. C'est accepter de lui donner ton passé, tes nuits, l'échec, le sentiment de rejet, peut-être ta peur. Et Romains 19 nous dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé.